Bonsoir à tous et bienvenue dans Graffiti Cinéma sur RCF Loiret, l'émission où on se pose des questions essentielles avec des films et des comédiennes. Cette semaine, nous recevons Prisca Peyraste, justement, qui nous donnera cette réponse à une question existentielle. Dis, comment je peux obtenir un Oscar ? C'est parti.
3, 2, 1, 0. Ça a fait je boum là-dedans.
Quoi ? Qu'est-ce qui a fait je boum là-dedans ?
Graffiti Cinéma.
Tcha !
Graffiti, c'est le
magique. Un petit français vient d'avoir deux Oscars, donc du coup on s'est posé cette question essentielle. Moi, j'en voudrais bien un aussi. Et c'est notre rendez-vous cette semaine avec une comédienne qui va justement nous parler de sa vocation, de ses projets, de l'origine justement et de la façon de jouer dans beaucoup de styles différents. On est très content aujourd'hui dans notre émission dans Graffiti Cinéma de recevoir Prisca Peyraste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on est au téléphone, on est en distanciel encore, et on va parler donc du coup de cette carrière et de ces projets que tu mènes justement dans tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui, et ce qui va nous permettre également de trouver ce qu'on aime bien dans notre émission, l'envers du décor, la façon justement de s'immiscer dans des rôles et la façon de jouer également dans plusieurs langues. On va en parler, c'est quelque chose de très intéressant. On parlera également de projets d'engagement, de sujets forts que tu mènes en tant que cinéaste et en tant qu'actrice, en tant que comédienne, et c'est tout ce qui nous intéresse pendant cette émission là.
Ok, avec plaisir.
Et nous de même, avec moi justement pour te poser des questions et pas de questions pièges hein, comme d'habitude, Thomas qui est avec moi pour cette émission. Salut
ouais,
Thomas.
Bonsoir, ça fait du bien de revenir dans le studio.
Oui.
Dans le studio là, que ça fait plaisir.
Ouais, oui, c'est sûr.
Alors,
que ça...
J'espère que ça va continuer, qu'on va pouvoir revenir plus, que les invités vont pouvoir venir.
Oui, 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 on va les accueillir, on est très accueillants avec également nos invités, et moi je vous propose, et Prisca est avec nous, de mettre un extrait de ta bande démo. Alors les bandes démo pour nos auditeurs, c'est ce que font tous les comédiens justement pour montrer l'étendue de leur talent, tout simplement, l'étendue de leur palette, et j'ai un premier extrait de ta bande démo qu'on trouve sur YouTube, hein, qu'on partagera sur notre page Facebook, qui montre justement qu'on est en présence d'une comédienne qu'on va apprendre à beaucoup apprécier aujourd'hui.
Alors nom, prénom, âge, adresse... Situation familiale, profession.
Anna Leclerc, 28 ans, 23 boulevard Aix-les-Mons, Paris 16. Je suis mariée depuis 5 ans, j'ai deux enfants, j'ai un chien. Je suis gérante de portefeuille, je pèse dans la société, hein. Je me lève un salaire de 12 000 euros par mois. Tout ça pour vendre de la merde à des cons, des gens creux, sans éducation, sans point de vue. Qui valent pas le cerveau de trois canards.
Et voilà une très très bonne, un très bon entretien d'embauche. Et premier extrait.
C'est sûr que c'est en face, c'est un flic. C'est pas parti sur de trop bonnes bases.
Et ben on va en parler avec l'intéressé. Hein. C'est un premier extrait de la bande démo. Alors c'est un rôle justement qui nous avait marqué dans cette bande démo et de ces extraits de l'ensemble de rôles que tu as pu faire.
Alors, en fait, ça, c'est simplement une scène d'interrogatoire où je joue quelqu'un d'important, donc qui gère une banquière, entre guillemets. Et mais c'était pas issu d'un vrai film, en fait. C'est une scène qui a été faite pour moi, en vrai. donc voilà. Mais je fais face à un flic qui est un petit peu raciste, quoi, entre guillemets. C'est un petit peu pour faire écho aux bavures policières sur la lutte contre le racisme, les bavures, l'affaire Adama Traoré, par exemple, les choses comme ça. Et j'ai vraiment voulu avoir une posture importante, c'est-à-dire que je voulais incarner une personne qui avait des responsabilités, qui a réussi dans sa vie, donc voilà, un poste de banquière, enfin, qui a des grosses responsabilités, et parce que c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir se tirer l'épingle du jeu, entre guillemets, pour pouvoir se faire une place et pas être un petit peu minimisé dans cette société, quoi.
Avec toi, on va parler justement de ces rôles-là, de l'engagement était nécessaire, parce qu'on va s'apercevoir, et en ta compagnie, évidemment, et c'est vraiment un atout d'avoir une comédienne avec nous aujourd'hui, de voir que, évidemment, aux comédiens aujourd'hui, ça obéit pas aux mêmes critères que dans le passé, ça va de soi, hein, c'est de la palissade que je dis, mais on va voir surtout de quelle façon, hein, il y a une part également d'engagement qui est assez essentielle aujourd'hui à mettre en avant dans ces carrières-là.
Oui, tout à fait.
Et donc c'est justement quelque chose qui va nous importer, puisque on va commencer par l'origine justement. Comment on décide de devenir comédien? Alors il y en a beaucoup quand ils passent chez Michel Drucker, peut-être que c'est ton souhait dans la vie, disent moi ça m'est venu à l'école. Alors comment ça t'est venu justement cette volonté de passer derrière les caméras, et puis après on verra aussi que tu passes devant.
Bon, moi, ça a toujours été, ça a toujours été là. En fait, j'ai toujours voulu raconter des histoires, mais enfin, c'est à commencer par la mienne, en fait, hein, parce que je reviens de très, 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 très loin, et j'ai voulu raconter ce qui m'a provoqué des déclics dans la vie, des leçons de vie, mais le faire d'une belle manière, donc que ce soit dans la danse, dans le cinéma ou quoi, j'ai voulu exprimer ça, et j'ai trouvé dans l'art un échappatoire, un moyen de ne pas être censuré. Pour moi, je voyais vraiment l'art comme étant un moyen de pouvoir s'exprimer librement, sans censure, sans rien, voilà, être simplement libre. Et voilà, c'est pour ça que je me suis rivée vers l'acting, parce qu'en fait, moi, j'ai fait 11 ans de danse au départ. J'ai fait 11 ans de danse moderne jazz, donc le mouvement, etc., c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et après, j'ai eu besoin d'exprimer ça vraiment par la parole et par le jeu. Et le cinéma, ça m'a toujours fait rêver, en fait. Moi, j'ai eu moi, ça a commencé, bon, par les Disney, des dessins animés, d'accord, mais c'est... En fait, les héros, à chaque fois... ils embrassent leur destin et ils en sortent victorieux. Et en gros, ce qui ressort toujours de ces films-là, c'est tu peux y arriver, c'est que quoi qu'il arrive, tu es capable, crois en tes rêves. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier, d'être actrice. Et puis je voulais surtout aussi incarner l'actrice que je voyais pas sur mes écrans à moi, quoi, parce qu'une une actrice noire qui a sensiblement, par exemple, ma vie, j'en ai pas vu, en tout cas dans les écrans français. Donc c'est pour ça que je me suis dit, moi qui viens, j'ai un passé assez compliqué, je suis une enfant issue de la DAS de base, donc je viens vraiment de très très loin, et le fait d'avoir fait mon bout de chemin toute seule, c'est ce qui a fait que j'ai voulu raconter ça au cinéma. Et je pense que le cinéma s'intéresse aux histoires intéressantes. Moi, j'aime bien les histoires issues d'histoires vraies, notamment. Voilà.
Et justement, je rebondis là sur ce que tu dis. Est-ce que les rôles que tu recherches, est-ce qu'ils doivent être signifiants? C'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent être forcément engagés? Ou est-ce qu'il y a un aspect où on peut se dire que, un acteur, c'est aussi un rôle de composition, un rôle qui ne représente pas ce qu'il est dans la vie?
Oui. Moi, au tout départ, c'est vrai que je suis arrivée naïvement là-dedans, parce que quand même, ça me faisait rêver, le cinéma, ça fait rêver tout le monde. Voilà, la magie, l'écran, de voir sa tête en machin, et puis des émotions. Enfin voilà, tout est porté pour moi, le cinéma, il y a vraiment tous les arts rassemblés en un seul. Et donc, moi, à la base, c'était aussi un échappatoire pour pouvoir kiffer, et sans avoir à piocher dans mon background à moi. Ouais. Mais je me suis vite rendu compte, notamment en cours, notamment au laboratoire, de l'acteur où j'ai été, où ma souffrance, c'est ça qu'on voulait surtout. C'est en gros, ça transpirait, on m'a dit non mais arrête de jouer les gentils, ça nous saoule. Alors que moi j'étais là, mais j'étais en surface, et j'ai vite compris qu'en fait ce qui intéressait les gens, c'est ce que je cache. Et c'est là que je me suis dit ah mince, parce que moi j'y suis allée pour complètement oublier, pour faire que des choses dans le sourire, dans le rire, et c'est pas ce qu'on recherchait, et j'ai compris plus tard pourquoi effectivement c'était intéressant. Mais moi, de base, c'est vrai que j'aime bien aussi l'univers de la comédie musicale, j'aime beaucoup les films musicaux, mais c'est vrai que quand on analyse bien, il y a un vrai fond derrière, il y a des vraies histoires, des vraies souffrances, et que c'est pas juste de la musique, on rigole, machin, non. Et c'est pour ça que, bon, moi, j'aime bien tout jouer, parce que moi, je considère que je suis un caméléon, j'aime bien apprendre des gens que je côtoie tous les jours, voir quelle est leur vie, pourquoi ils pensent comme ci, comme ça, quel a été leur passé, vers quoi ils tendent, etc. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie d'habiller dans le cinéma, parce que c'est des histoires, des fois, dont on n'a pas du tout conscience. Et c'est ça que j'ai voulu aussi faire plus tard, en gagnant aussi un peu en maturité, parce que je me suis rendu compte que oui, j'ai des souffrances, il y a des choses qui sont pas forcément réglées, et que oui, c'est une thérapie aussi, pour moi, le cinéma, et puis c'est aussi politique, et si on peut rassembler tout en même temps et avec beauté, c'est encore mieux.
Alors, on parlait de musique un petit peu, avant notre dernière question, on rappelle à nos auditeurs, cette semaine, on a une grande chance, c'est que Alex, qui fait nos pauses musicales toutes les semaines, il va nous chanter en live sur son morceau, pendant la pause musicale, donc une chanson plutôt sympa en plus, hein, qui va nous mettre une grosse patate, donc ça va être être cool. On avait une question qui nous venait. Moi, je propose un extrait en fait d'une démo également que tu as fait, qui est l'adaptation de Kramer contre Kramer en anglais. Alors, on va mettre quelques instants parce que c'est très intéressant de voir que ça va nous amener des questions qu'on se posait depuis peut-être devant l'écran depuis pas mal de temps et qu'on va faire en ta compagnie. On se retrouve tout de suite.
Mrs. Kramer, why are you asking for custody?
Because he's my child. And because I love him, I know I left my son. I know this is a horrible thing to do. Believe me, I have to live with that every day of my life.
And the Oscar goes to...
Et oui, l'Oscar, il va à qui, justement? On faisait la vanne sur les Oscars en lançant cette émission, parce que c'est vrai que finalement, Kramer contre Kramer, dans cet extrait où tu interprètes donc, le personnage qui est joué par Meryl Streep dans le film d'origine. Meryl Streep, bon, bah, on sait qu'elle a eu 34 Oscars, je crois, d'interprétation. Alors, blague à part, évidemment, c'est quelque chose, c'est une actrice absolument incontournable. Et ça nous amène vers des questions sur le fait de jouer dans des langues étrangères qui ne sont pas la langue maternelle. Moi, c'est une question, on le disait en préparant l'émission tout à l'heure en off, c'est des questions de, quand je suis devant l'écran, je me dis mais comment on joue quand on ne joue pas dans sa langue maternelle? Et là je trépignais depuis longtemps de la poser à un comédien ou une comédienne, et on va le faire en ta compagnie, on est très heureux. Alors du coup la question essentielle elle est là, est-ce que ça désinhibe de jouer en anglais, en espagnol? Qu'est-ce que ça change dans la façon de jouer un personnage?
Oui, moi je pense que je m'autorise plus et je suis plus à l'aise. Déjà même la langue en elle-même elle est très, je trouve extravertie. C'est-à-dire qu'on porte la voix dans le masque. Yes, you know, because it's absolutely true. Yeah, because on parle beaucoup plus fort et ça nous pousse déjà à être en dehors, devant, je trouve. Et oui, moi, j'adore jouer en anglais. J'ai toujours aimé l'anglais et ça, ouais, ça permet de jouer. C'est pas du tout la même énergie. Mm-hmm. Nous, les Français, on parle très un petit peu dans le souffle. On est très en intérieur, tout ça. Alors que déjà, les Anglais, il y a le corps qui est engagé beaucoup plus aussi. Et je trouve que ça amène au jeu, ça apporte un plus au jeu. Ça permet de
C'est très intéressant ça, parce qu'on voit toute la culture qui est portée par une langue également, et que c'est pas juste jouer, traduire littéralement un texte, c'est également jouer avec son corps, la langue, et porter ça dans un personnage.
Oui, c'est totalement ça. Et puis même, bah, quand je travaille un texte, bon déjà, il faut, faut pouvoir l'analyser. Et puis il y a beaucoup plus de sens aussi, la langue anglaise, il y a des mots... il y a des mots qui signifient quelque chose de bien particulier, donc du coup ça permet aussi de cibler comment jouer le truc, etc. Et oui, je joue pas du tout la même manière non plus en espagnol aussi.
Et oui, c'est une autre question, ça, en espagnol. Il y a également l'espagnol qui est présente sur cette palette-là. Alors c'est vrai que pour l'espagnol, bah du coup on peut justement poser cette question-là. Qu'est-ce que l'espagnol change également à l'interprétation?
Déjà, je trouve que j'ai une voix plus grave. Por supuesto que hablo español porque es la vida de hablar español.
Si.
Bon, tu vois, je suis beaucoup plus speed. Je trouve que c'est comme si j'étais encore quelqu'un d'autre. C'est dans la manière de parler, c'est encore quelqu'un d'autre. Et ouais, c'est vraiment l'énergie de la langue qui transforme aussi qui je suis. Donc moi, en français, c'est différent. On ponctue pas les phrases de la même manière, on n'engage pas le corps de la même manière. C'est assez différent. Kramer contre Kramer, je me suis autorisée plus. Je pense que ça aurait pas donné pareil si je l'avais joué en français.
Oui, c'est juste.
Je veux avoir la garde de mon fils parce que c'est important. Je trouve qu'il y a moins de force qu'en anglais.
C'est très intéressant, et parce que là on est vraiment dans la technique du comédien, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et on est très content de pouvoir le mettre en avant avec ces questions là merci beaucoup, hein. Et Thomas, tu avais également une question par rapport à ça.
J'ai une petite question là dessus est-ce que cet apprentissage des langues il s'était fait avant du projet de comédien, ou en même temps, ou en se disant que effectivement c'est toujours une corde incroyable à un arc de pouvoir dire je peux jouer dans trois langues différentes pour embrasser des projets qui seraient peut-être pas accessibles si tu avais pas ces cordes là
Moi, c'est l'anglais, c'est venu grâce aux chansons, parce que j'ai été baignée dans l'industrie américaine, encore une fois, et donc j'écoutais des chansons en anglais, je chantais ma star préférée, c'était Britney Spears, et du coup, je chantais ces chansons, j'adorais, et donc c'est venu comme ça, petit à petit, puis regarder les films et tout, et l'anglais, j'en fais aussi depuis le CE1 aussi. J'ai appris l'anglais depuis très tôt, et l'espagnol à partir de la quatrième, même si j'ai un bien meilleur accent, étrangement, en espagnol, on m'a déjà demandé si j'étais native en espagnol, alors que pas du tout. Mais non, la langue, moi j'ai toujours été très douée en langue, et j'aime bien, c'est différent, il y a une poésie dans la langue dans laquelle on peut parler, et c'est vrai qu'après j'ai dirigé mes études, parce que j'ai fait une fac littéraire, une LLCE anglais, voilà, et parce que c'est vrai que je me suis dit, bon, moi, ma famille veut que je fasse un truc un peu sécuritaire, quoi, dans le sens, faut faire un truc pour pouvoir bouffer, machin. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un truc dans les langues parce que je sais que je vais pouvoir choper des rôles dans ces langues. Mais j'ai pensé tout de suite après cinéma, quoi. Enfin, j'ai pensé.
Il y avait cette optique-là. Ça me fait penser à un aspect un peu anglo-saxon des choses, de se dire que la danse, toutes ces cordes-là qui interagissent, c'est moins présent chez beaucoup de comédiens ou d'acteurs français qui ont encore cette idée d'être je peux sortir à la limite du théâtre, qui est le Graal,
le sérieux, oui.
Vraiment la voie royale, et alors que les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques.
Ah ouais, moi je suis pas du tout, moi je suis beaucoup plus à la sauce américaine depuis toujours, hein. Comme je disais, j'ai fait 11 ans de danse moderne jazz à partir de mes 10 ans quand on fait le calcul internant. Oui, et la danse, c'est le corps, c'est le mouvement. Je trouve que même en France, on n'engage pas assez le corps, pourtant c'est essentiel, parce que même pour la construction d'un personnage, ça permet de vêtir un personnage différemment. La posture n'est pas la même, on respire différemment le personnage, le corps il est hyper essentiel, il y en a ils sont trop en mode cérébral au niveau de la tête, mais le corps doit être engagé. C'est important, et le chant, tout ça c'est complet, parce qu'on est notre propre instrument, et ça permet du coup de vraiment travailler sur plein d'aspects, parce que même le chant, ça permet de savoir comment placer sa voix, ça permet d'avoir un ton autoritaire quand on parle, quand on veut jouer.
Là ça m'a fait peur.
C'est des choses qu'on oublie complètement. Je peux avoir une voix un petit peu de petite fille comme ça, parce que je sais pas trop, j'ai 21 ans, tu vois.
Il y a une expression qui me vient, là, on parlait de langue, pendant que Alex est en train de s'installer pour le live qu'il va nous faire dans une minute, il y a une expression qui me vient au moment où on parle, donc les langues, ta formation de jazz, tout ce que tu apportes, c'est que les comédiens et les comédiennes, ce sont des passeurs de culture finalement, dans un sens.
Oui, ah bah oui. Ah bah complètement. Et puis c'est être acteur, enfin les comédiens ou acteurs, c'est pouvoir mettre en lumière des drames sociaux, en lumière des réalités sociales, tout simplement. C'est aimer avec beauté, poésie et dans le plaisir, quoi. Faire des films coup de poing ou des films romantiques, mais avec un vrai fond derrière. Moi, j'aime bien par exemple, j'ai vu un film qui s'appelle 12 Years a Slave. C'est pas du tout un film gay, parce que c'est sur l'esclavage, par exemple. Mais c'est un film coup de poing qui, moi, m'a donné envie de couper mes cheveux lisses, défrisés, par exemple.
Oui, je vois.
Parce que je ne m'aimais pas à ce moment-là, et parce que le film il est tellement efficace, il m'a tellement impacté et tout, que du coup, je me suis dit, ah ouais, non, j'ai mis la tête dans le sac tout le long. Mmh. Donc oui, être acteur, c'est pouvoir incarner notre voisin qui vit des choses de merde, mais on va jouer ce qu'il vit, parce que lui, il n'est pas capable de le faire. Il pourrait pas faire le métier que nous on fait, parce qu'il a peur de la caméra, ou il a peur d'être sur scène, il a le trac. Nous, c'est notre rôle de pouvoir savoir quel est son passé, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, pourquoi il a cet objectif, pourquoi ça s'explique.
Ce qui nous amène à ce qu'on évoquera dans la deuxième partie, justement, la notion d'empathie et d'engagement du comédien et de la tienne, évidemment, dans ta carrière, qui est très importante. On parlera des projets dans la deuxième partie. C'est déjà très intéressant, et voilà, on trépigne, parce que le temps passe très vite, et c'est toujours très bon signe. On apprend plein de choses super intéressantes. Oui. Et alors Alex vient de s'installer. On va mettre un petit jingle et puis ça va être notre pause musicale. Alex, il va nous chanter une chanson qu'on aime beaucoup dans l'émission. Hein. Depuis le début de la saison, il fait nos pauses musicales. Priska, je suis en train de te l'apprendre. Et toutes les semaines, on découvre l'album d'Alex, les 6 premiers morceaux, l'album d'Alex, qu'on retrouve évidemment sur sa page Facebook. Il va nous la citer. Alex, je te fais tout de suite une petite ouverture de micro. Salut à toi.
Alors, bonjour à tous.
Où est-ce qu'on retrouve tes morceaux, Alex?
Alors du coup, maintenant, on a changé de nom. C'est Alex Le Bail. Pour me retrouver, on me retrouve sur tous les réseaux, toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc., sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et j'en passe, donc on me retrouve vraiment partout, et puis on peut suivre mon actu aussi.
Ça marche. Eh bien, un petit jingle, la chanson d'Alex, et puis dans la deuxième partie, on retrouve notre invité Priska Peyraste qui est avec nous, avec qui on découvre énormément de choses aussi très intéressantes, également très intéressantes sur le métier de comédienne. C'est essentiel, et c'est parti.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma, va.
Écoutez-nous sur Orléans 91.2 FM.
À Gien sur 87.9.
À Montargis sur 90.3.
Vous nous écoutez à Pithiviers sur 95.1. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe.
Vous comptez expliquer tout ça ?
Non, on dit rien.
Hier, je t'ai croisé dans la rue. Ton bras m'a frôlé, presque nu. J'ai senti comme une vague de chaleur. Comme si d'un coup, j'avais un cœur. Comment m'ouvrir à ce désir? Te dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find the songs I can. Aujourd'hui, premier rendez-vous. Regard de foudre, lueur en nous. Je sens mes sens s'imprégner. Tant d'innocence tu m'étais destiné. Comment m'ouvrir à ce désir? Te dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but now we find the songs that can. Demain tu seras à mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si jamais tu sais l'envie, que plus jamais je ne te fuis. Comment m'ouvrir à ce désir? Te dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find the songs that can. I can't explain, but I will find the songs that can. I can't explain, but I will find the songs that can.
Alex Le Bail a chanté, Alex Le Bail a chanté sa chanson en direct live dans les studios et d'applaudir. Je suis obligé d'ouvrir le micro de Thomas pour qu'il l'applaudisse. C'est vrai que c'est génial parce que c'est assez rare qu'on ait des gens qui nous chantent directement dans les studios. Un immense merci Alex. On retrouve les albums, on l'a dit, sur la page Facebook Alex Le Bail pour découvrir la suite de cet univers musical. C'était ça Alex, je ne me suis pas trompé.
C'est ça.
On est parfait. Et tout de suite on retrouve Priska Peyraste, notre invitée, pour la deuxième partie de notre entretien. A tout de suite.
Putain. Mais j'ai pas que ça à foutre de prendre la pilule quoi, c'est bourré de... C'est pas bon pour la santé, arrête de rejeter la faute sur quelque chose qui a rien à voir.
Calme-toi.
Si supieras,
Estoy harta de este trabajo.
On est de retour dans les studios, vous écoutez Graffiti Cinéma. Nous sommes avec Prisca Perras pour la deuxième partie de notre entretien. Ça va? Toujours là. Magnifique. Alors on est justement avec ce deuxième extrait de la bande démo hein, qu'on disait qu'on va, on va la partager sur notre page Facebook Graffiti Cinéma puisqu'on découvre voilà, justement l'ensemble de ta palette. On a parlé dans la première partie anglais, espagnol, on a parlé de ces énergies qui sont apportées par ces différentes langues et cultures. Dans la deuxième partie, on va évidemment parler justement de cet engagement et des projets à venir qui sont les tiens puisque tu vas notamment jouer dans une série Netflix qu'on va pouvoir découvrir.
Non. Donc, c'est bon, je parle.
Oui, ouais, tu peux parler. Je vais juste balancer un tout doom hein, pour souligner le côté Netflix. Voilà.
Yes, oui, je vais apparaître dans Gone for Good de Juan Carlos Medina. Mm-hmm. Et c'est une adaptation du roman de Harlan Coben.
Exactement.
Qui s'intitule Disparu à jamais. J'ai un rôle qui a un très gros impact sur un des personnages principaux parce que ça va complètement changer son destin. Je vais pas spoiler, mais la scène elle est forte parce que ça rejoint totalement mes combats personnels. Ça fait vraiment écho parce que bon voilà, je ne sais pas si je dois en dire plus.
Est-ce que tu as le droit, c'est surtout
ça. Est-ce que tu as le droit de le faire parce que nous on veut pas d'histoire avec Netflix.
Non, voilà, j'ai dit ce qu'il fallait, mais ça rejoint le côté engagé.
D'accord.
Ça rejoint le côté engagé sur le racisme, on va dire.
Quand est-ce que ça arrive ?
Oui, c'est vrai. Ouais.
Voilà, on va dire ça.
D'accord. Et on l'attend pour quand ? Alors du coup, tu as évidemment des infos là-dessus.
C'est cette année que ça D'accord. sort, ça c'est sûr. Maintenant, je n'ai pas encore la date bien précise. Je pense que c'est plus vers la rentrée que D'accord. ça, oui. vers septembre. Je sais pas. De toute façon, dès que j'ai des infos, je communiquerai là-dessus.
Ah, mais avec grand plaisir. Alors, on va parler de tes autres projets, évidemment, puisque là, on est dans l'engagement. On va notamment dire et parler plus longuement du film que tu as réalisé. Mais moi, j'ai une question quand même essentielle pour une comédienne qui a joué dans une série Netflix. Est-ce que sur le tournage, il est obligatoire de savoir faire le tout-doom?
Le tout-doom.
Le fameux tout-doom de Netflix, tout-doom.
Non.
Alors, c'est pas une figure imposée. Voilà, c'était juste une question un peu débile que j'avais en tête. Et évidemment, de manière plus sérieuse, on va parler de tes autres projets importants, notamment parce que là, il y a cet engagement qui est aussi très important dans le fait de passer derrière la caméra. Et ce qui est aussi très important, tu as réalisé un film sur un sujet fort, qui est le racisme, évidemment, qui est très important dans nos sociétés aujourd'hui. C'est important de le mettre en avant parce qu'on n'en a pas fini, hein, même pour nos générations, on va dire XY et des années 2000. Il y a encore beaucoup de boulot. Et le film, c'est Liberté, Égalité, Fraternité.
Alors, il s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité avec un sous-titre important qui s'appelle Que rêve devienne réalité. C'est vraiment important de le joindre aussi parce que pour moi, ce n'est pas le slogan qui définit véritablement la France. J'aborde donc la question, oui, donc du racisme et de l'égalité des chances en France. J'aborde les questions d'auto-sabotage aussi, quand on est issu de la diaspora afro-antillaise, ou même quand on est afro-européen, quand on est né en France, mais qu'on est français, mais qu'on ne l'est pas a priori aux yeux des non-noirs. Donc oui, je parle de ça parce que en fait, moi, j'ai, comme je disais, donc je suis une enfant issue de la DAS, j'ai été séparée donc de ma famille biologique et j'ai été élevée par une famille d'accueil blanche. Et donc c'est ça qui m'a permis d'avoir vraiment deux regards différents et de me rendre compte qu'il y avait du racisme inconscient. Parce que même quand des personnes aussi sont censées nous aimer, il y a des maladresses, des phrases qui ne sont pas normales. Et c'est ça que je mets aussi en avant. Donc je mets en scène deux réalités. Je mets une perception blanche et une perception noire. Quoi. De prisme blanc à prisme noir, on passe. J'interview des personnes noires, blanches, métisses. Et je parle, j'aborde tous les sujets qui fâchent, mais j'ai un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est des personnes en fait qui sont interviewées et qui ont un but commun, c'est un meilleur vivre ensemble et des solutions pour l'avenir. Comment pallier au racisme, que ce soit dans les zones d'éducation prioritaire où on coupe les génies à la racine avec l'histoire des quotas, c'est aussi les grandes écoles, plus de mixité sociale. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on aborde. Le film il s'articule entre trois points, entre la dénonciation, un petit peu instruire et puis apporter des solutions et un film qui est lumineux.
Est-ce que, alors moi j'ai une question plus générale dans cette idée-là, est-ce que le fait de passer derrière la caméra, donc c'est-à-dire là de créer de créer les rôles, de créer les films, de créer les scénarii. Est-ce que c'est une... c'est une question peut-être un peu dure. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'il n'y a pas assez de projets qui se montent pour que on soit obligé de les produire nous-mêmes?
Ah bah clairement, oui.
Hein, voilà, c'est ça. C'est voilà, c'est une question qui m'intrigue. Ça, je me dis que.
Malheureusement, oui, parce que oui, parce que les histoires telles que moi je la vis, elles n'existent pas. Ouais. Parce que en fait, ça change toujours. Je veux dire, en soi, il y a plein de films qui ont déjà été faits, certes, mais les films sont faits différemment, et c'est la manière de faire aussi qui fait que ça a un impact sur une population ou pas. C'est que il y a, j'ai envie de dire, des Roméo et Juliette, par exemple, il y en a, ils ont été faits plein de fois. Ouais. Mais il y en a qui marchent aussi plus que d'autres, il y en a qui ont plus, enfin, qui marchent plus que d'autres, ça dépend auprès de qui. Mais je sais que moi, mon histoire, il y en a plein qui la vivent, entre guillemets, moi, en tant que fille, qui n'a pas été élevée par ses propres parents, et qui a eu tendance aussi, je le dis, à dénigrer sa propre famille. Parce qu'on m'a appris à le faire, en fait, quelque part. J'ai appris à avoir honte j'ai appris à ne pas être hyper fière d'être noire, étant donné que j'ai eu un passé compliqué. Donc du coup, je me suis dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. J'ai réussi à prendre le recul pour pouvoir travailler sur moi et comprendre qu'en fait, on est tous des êtres humains qui souffrons. Et c'est ça qu'il faut aussi... C'est de ça dont il faut parler. L'histoire, la mienne, personne ne la connaît. Et c'est ça que j'ai envie aussi de mettre en image. C'est comprendre pourquoi je vois le racisme. Moi, au départ, je ne me voyais pas en tant que fille noire, je me voyais en tant que fille française. Point. Mm. Mais c'est en me confrontant au regard des autres que j'ai compris que ma couleur était un problème. Alors que moi, j'étais plus validée que personne, quoi. Ouais. Mais quand j'ai vu que c'était un problème même dans l'industrie, où par exemple, je citerai pas le nom de... parce que j'ai eu trois agents en tout, mais je dirai pas le nom de cet agent qui, en gros, j'ai demandé de jouer dans une pièce de théâtre. Et j'ai dit, tu m'as mis sur cette pièce ou pas? Parce qu'il cherchait tel rôle et correspondait. Et elle m'a dit, ah mais non, mais cherchez pas de noir. Je lui ai dit, non, mais pour faire ce genre de rôle, il faut pas forcément être noir. Non, mais j'ai entendu des trucs. Juste pour terminer l'anecdote.
Oui, non, mais c'est important de le mettre en avant. Hein. C'est essentiel, quoi. C'est dingue d'entendre ça, quoi.
Parce que pendant que nous, on se bat, on travaille comme des fous dans notre coin, t'as l'agent qui se dit, il cherche pas de noir, donc voilà. Et après, elle me dit, je t'enverrai quand tu corresponds. Je lui ai dit, oui. Parce que moi, je peux jouer. J'ai été en plus banquière vraiment, par exemple. Donc jouer des rôles de banquière, oui, c'est cohérent. Je l'ai été, même si c'est aussi grâce à ma famille d'accueil, parce que le père d'accueil était banquier, que j'étais pistonnée. Mais j'ai fait le taf d'une banquière vraiment. J'ai fait les virements, les machins, les échanges monnaie et compagnie. Donc c'est le truc, c'est le fait que je suis complètement capable. Et pour moi, j'arrive, je débarque dans le cinéma, je me dis c'est cool, je vais pouvoir faire tel rôle. Mais je me suis pas rendu compte que
Il y avait encore trop d'interdits, pour le coup.
Énormément. Il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés et des rôles dans lesquels on ne nous voit pas sous prétexte qu'on a la couleur noire. Et voilà. C'est assez compliqué. Et moi, avec ma fierté, je me suis dit, mais d'où, moi, j'ai pas tel rôle alors que je corresponds totalement. Non, je vais pas faire la fille de cité. Je peux le faire, mais j'ai compris qu'ils aimaient bien catégoriser, mettre les noirs, soit femmes de ménage, ou immigrées, ou femmes hypersexualisées, ou je sais pas quoi. Et moi,
Comment tu perçois ça? Parce qu'on parlait de culture tout à l'heure via les langues. On voit que les anglo-saxons n'ont pas du tout le même positionnement, notamment aux États-Unis vis-à-vis de ça. Il y a vraiment des films qui sont faits pour des communautés, pour leur montrer leur attachement à un projet commun finalement qui est de vivre en société dans un pays qui a des valeurs communes. En France, on n'a pas le même positionnement qui est radicalement opposé, alors qu'il n'est pas en soi mauvais, mais on voit que ça laisse quand même pas mal d'hypocrisie dans le sens où on est tous républicains, mais on n'a pas cette culture, encore une fois, de mettre en avant des gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils forcément ils apportent ou ce qu'on voudrait qu'ils apportent finalement. Je ne sais pas si ma intervention est suffisamment claire, mais il y a une vraie opposition entre les deux, quoi.
Oui. Puis, enfin, on aime bien parler à notre place, en général. Et c'est pour ça que moi, je sais que j'ai des projets, mais du coup, j'ai été un petit peu... surtout que là, très, très récemment, enfin, avant même de passer en radio, j'ai eu une assez mauvaise nouvelle parce que j'ai un projet qu'on a copié. Enfin, bref, mais ça, c'est une parenthèse. Mais pour dire que oui, dans le cinéma américain, il y a de la diversité, tout ça, et il y a des réalisateurs noirs qui réalisent pour leur communauté. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est ça qui manque en France. Et j'ai décidé d'endosser ça parce que moi, avec mon caractère de de battante de base, où en gros, moi, si je veux un truc, je l'aurai. Et si tu mets des bâtons dans les roues, bah, dans ce cas-là, j'utiliserai les bâtons pour monter, quoi. Mais quoi qu'il arrive, j'arriverai à ce que il est hors de question qu'on crée la réalité que les gens veulent créer pour moi.
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc, du coup, c'est presque dans la force des choses que j'ai été amenée à réaliser, et puis j'ai aimé ça aussi directement. C'est-à-dire que depuis Acting International, je suis maintenant obligée de dire. Alors...
C'était New York, ça. Hein. C'était, on est à New York, là. Hein. Non ? Au niveau de l'accent.
J'ai réalisé mon premier court-métrage, qui s'appelle Crois en tes rêves, oui. et ça s'est fait naturellement. Voilà, au départ, je voulais tourner avec mon portable, et donc j'ai un pote de ma classe qui m'a dit, mais non, vas-y, tourne avec, j'ai des potes qui ont une vraie caméra, machin, tu vas pas tourner avec un portable. Et donc, c'est ce qui a fait que par la force des choses, j'ai réalisé mon premier court-métrage, j'ai kiffé, c'était cool. Et voilà, mais parce que c'est nécessaire, les gens sont loin de notre réalité. On peut pas savoir ce que vit une personne noire, parce que par définition, on n'a pas la peau noire. Mmh. C'est-à-dire que, c'est la première chose que les gens voient quand ils nous voient arriver. Moi, je sais que si jamais tout à coup je suis habillée en mode un gros baggy, j'ai les cheveux afro parce que je me suis lavé les cheveux juste vite fait, et je sors là, on me prend pour une grosse racaille.
Oui.
Alors que j'ai, enfin, je suis une, puis j'aime pas dire grosse racaille parce que c'est qu'est-ce que ça veut dire ça, mais parce que ça, c'est des gens qui ont aussi une histoire aussi. S'ils sont devenus comme ça, c'est parce qu'on les a parqués à des endroits et qu'on les a négligés. Mais on est tous des êtres humains, ou même avec un potentiel illimité, c'est ce que les gens ont tendance à oublier.
C'est pour ça que c'est important d'avoir des comédiens qui apportent cette empathie-là, je dirais, et pour justement arriver à sensibiliser, je dirais, aux luttes d'un groupe, quels que soient les groupes d'ailleurs, pour que ça en profite à l'ensemble d'une société. Hein. C'est souvent ça, souvent qu'on craint en France, c'est que les luttes de féministes, des noirs, des choses comme ça, peut justement poser des gens en concurrence, alors que justement, au contraire, ce qui est acquis par un groupe est acquis pour tout le monde finalement. Et ça profite à l'ensemble d'une société.
Oui, voilà, exactement. Et moi, c'est la démarche de mon film Liberté, Égalité, Fraternité. C'est un documentaire. Mais moi, je sais que j'ai toujours aimé les films de fiction, les vrais films, voilà, de fiction. Mais les documentaires, on apprend aussi beaucoup de choses. Et c'est le genre de film qui m'a aussi apaisée. Et moi, j'aime beaucoup Yann Arthus Bertrand, notamment. C'est pour ça que mon film, il est un petit peu sur ses traces, mais qui concerne le peuple noir, parce que c'est un, voilà, je veux faire un film qui soit beau, qui soit magique, qui soit choc aussi, mais qui ressort avec beaucoup d'amour dedans. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis un petit peu écartée du sujet, je crois. Mais
c'est pas un problème.
Mais pour dire que oui, c'est nécessaire pour moi. Et puis j'ai des comptes à rendre avec moi-même. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai besoin de dire et de partager, et que quand on me pose des questions, etc., c'est toujours le même genre de questions qu'on me pose. Est-ce que tu veux être actrice? Mais est-ce que tu veux être réalisatrice? Mais je suis tout ça. En fait, je veux diffuser des messages de ce que j'apprends. Je veux le faire avec beauté. Donc, que je le fasse dans la danse, ou que je le fasse en tant qu'actrice, ou en tant que réal, pour moi, c'est la même chose. Mais en France, ils ont du mal avec ce côté pluridisciplinaire où pour eux, on se disperse, on fait plein de trucs différents et on n'est pas centré. Mais moi, je sais très bien où je vais. Ça a toujours été la même chose depuis le départ.
Tu parlais de beauté, j'ai mis en fond sonore ce morceau qui s'appelle Absurde, qui est justement extrait d'un court-métrage dans lequel tu as joué. On peut en parler de ce morceau-là également.
Oui, bah, mon court-métrage, c'est moi qui l'ai réalisé d'ailleurs. Voilà. Et là, en fait, c'est une chanson qui raconte la dépendance. Ça parle de la dépendance affective. C'est de voir l'autre comme l'objet de son bonheur au lieu de s'autosuffire. C'est ça que raconte la chanson, et c'est tiré du film Ne me juge pas, c'est un film court que j'ai réalisé et qui aborde deux prismes différents. Donc t'as un couple, c'est Sandra et Olivier, moi j'incarne Sandra, et Olivier c'est mon petit ami dans le truc, et on est deux noirs, hein, et donc on a un qui est très entre guillemets lumineux, qui entoure ses amis, etc., qui vit, etc., mais qui a une blessure. Et elle, qui est très solitaire, qui a eu des problèmes avec les hommes et tout, qui le racisme, qui fait que du coup ils se retrouvent tous les deux et ils se comprennent. Mais elle a du mal à faire confiance en l'amour à nouveau, et elle jette son dévolu sur lui qui est tellement lumineux, que du coup, elle dit, un homme noir qui connaît son histoire et qui est fier, j'ai envie d'être avec lui, quoi.
Oui.
Sauf qu'elle se perd et elle oublie de s'aimer elle d'abord.
Alors ce très joli morceau, on le trouve sur YouTube, hein, sur ta chaîne YouTube. Hein. On mettra évidemment, on le partagera également sur notre page Facebook. C'est très reposant, finalement. Voilà, c'est très apaisant.
Ouais, bah la musique là, parce que j'ai plein de projets évidemment, parce que j'en ai toujours eu plein. Mais ouais, cette musique là, c'est une des chansons d'un projet beaucoup plus grand. en vrai.
D'accord.
Parce que je voudrais, cette musique-là, je la voulais cinématographique aussi. Parce que enfin bref, voilà, je vais pas trop parler de mes projets parce que bon, hein, c'est pas bien de parler trop.
Oui, bah, on est un peu là pour ça aussi, pour t'en faire parler, parce que c'est vrai que ça a du sens et c'est très important, voilà, de parler de tous ces sujets. C'est vraiment essentiel de le mettre en avant avec la technique du comédien qu'on avait en première partie. On apprend beaucoup de choses et c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Voilà. Et Thomas avait justement une question par rapport à ça. Alors, il va un petit peu nous casser l'ambiance parce qu'il voulait poser une question plus légère. C'est sa fameuse question, George Lucas. Alors, je vais ouvrir son micro. Attention, roulement de tambour.
Parce qu'on est, on est des geeks aussi. Et j'ai une question édition spéciale, c'est-à-dire que j'essaie de la poser à toutes les personnes, tous les artistes qu'on rencontre, qui généralement scénaristes, réalisateurs, qui produisent. Est-ce que une fois que l'œuvre est terminée, est-ce que on revient dessus? Est-ce que quelques années après, est-ce qu'il y a des cours ou des courts-métrages où on se dit ah, je pourrais le faire autrement, celui-là? Ou et du coup, je le remonte, comme George Lucas l'a fait, hein, c'est exactement pour ça que je l'ai appelé comme ça, cette question. Ou est-ce qu'on s'en sert pour en faire un autre film?
Une autre œuvre. Et ben, pour moi, les deux sont valables. Pour moi, ici-bas, tout existe. Et si c'est juste pour nous de refaire le film parce qu'on a une nouvelle maturité et que ça correspond mieux à ce qu'on voulait véhiculer ou à ce qu'on veut véhiculer, maintenant, et ben, autant le faire. C'est vrai que moi, j'ai tendance à regarder aussi souvent en arrière, même si en soi, je me dis, bon, le film leur appartient, c'est comme ça, c'est envoyé, ça a été fait à l'instant T parce que ça devait être comme ça et ça a fait écho chez des gens au bon moment, et ce qui a compté en tout cas, c'était de le faire à tel moment, parce que si ça a été fait, c'est parce que ça devait être fait et à ce moment-là, et voilà, et après on évolue toujours, mais bon, moi j'ai jamais remonté en soi un film, non, j'ai pas le souvenir d'avoir fait ça, mais par contre j'essaie d'en prendre de la graine pour les projets d'après et d'essayer de faire un truc encore mieux construit, mieux dit. Mais il y a vraiment un fil rouge dans mes projets. Par exemple, on retrouve toujours les questions du racisme, du développement personnel, de l'amour de soi, parce que c'est une base et c'est le plus compliqué en plus.
Oui, c'est très lié finalement, parce que le racisme, on en parle comme un sujet, et c'est un sujet de toute façon qui est essentiel pour tout le monde, mais c'est également lié à l'intime, parce que je dirais finalement, le raciste en soi, c'est aussi quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, dans un sens, qui souffre également de ça, quoi.
Mais c'est exactement ça, c'est pour ça que mon film il est vraiment important et que ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, parce que du coup là j'ai sorti une première version sur YouTube, j'ai un lien privé qui existe depuis un bon moment, mais oui, c'est vraiment lié à l'intime qui parle, parce que ce film-là, ça parle aussi de mon propre auto-sabotage. C'est le fait de ne pas avoir confiance en moi, mais d'où vient ce manque de confiance? Et ce manque de confiance vient de ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci. Et c'est-à-dire, c'est mon histoire. Donc, le fait que je sois partagée entre blanc, noir, machin, tout ça, que je suis pas assez bien, que je me suis jamais fait confiance pour aller faire le conservatoire alors que j'aurais carrément pu. Enfin, plein de choses comme ça où on dit, mais non, mais les noirs, ils vont pas au conservatoire. Des choses, tu vois, où genre, ah, t'es belle pour noir, t'es intelligente pour une noire et que toi, tu veux plaire absolument. Non, mais tu vois, mais j'ai entendu ça.
Oui, non, mais on l'a vu même dans d'autres reportages et c'est, il faut le dire à chaque fois que ça sera entendu, c'est assez relativement consternant aujourd'hui, hein. Mais il faut le dire, ça existe encore, hein, faut pas mettre un drap dessus, quoi, et c'est terrible.
Non, mais c'est ça, et c'est que les gens, je sais que là, les gens en ont marre d'entendre parler de ça, mais qu'est-ce que c'est que de le vivre? Et c'est pas être dans un discours victimaire que de le dire, c'est que c'est la vérité, c'est que moi, j'aimerais bien juste faire ma vie tranquillement, sans qu'on me mette ma couleur en face, dont je n'ai que faire en soi, tu vois. Non, mais voilà, mais du coup, à un moment donné, comme je vois que c'est un problème, qu'il y a des a priori, qu'il y a des peurs et des choses comme ça, qu'on nous voit comme sauvages quand tout à coup on est un petit peu impulsif parce qu'on a passé une sale journée. Enfin, impulsif, je m'entends quand je dis ça, mais tout de suite on va prêter ça un petit peu à la sauvagerie noire, quoi. Enfin, et ça,
les clichés des dignes des années 30, là. Donc,
tout à coup, les clichés, ils reviennent vite, et donc du coup, se sent en danger parce qu'on se dit, ouais, alors, en fait, il y a des a priori, il y a des trucs vraiment bien enracinés, mais dont ils n'ont même pas conscience. Et du coup, moi, ça me fatigue, et je me dis, non, mais. Et c'est ça qui fait qu'après, on est poussé vers le communautarisme, le fait de se retrouver avec des gens qui nous comprennent vraiment, et c'est de ça aussi dont parle mon film Ne me juge pas, c'est que ces deux personnes qui finalement sont un petit peu des rois et reines dans leur domaine, mais qui se... Enfin voilà, deux noirs qui s'aiment comme ils peuvent et qui ont vécu des choses compliquées, et mais leur relation n'a pas survécu parce qu'il y en a un qui, a été trop à fleur de peau par rapport à sa non-estime de lui-même. Et c'est pour ça que...
Alors il nous reste une question, parce que c'est vraiment... Pour ce sujet-là, ce qui est important de dire pour terminer, parce qu'on a une question vraiment à te poser également sur le domaine du polar, qui est aussi très important, mais pour ce qui est du racisme, voilà, ce qui est vraiment essentiel également via ton parcours de comédienne, et ce qui est essentiel vraiment, je pense, à comprendre également pour nous tous qui nous écoutez, c'est que il n'y a pas besoin en fait de partager cette réalité-là pour se sentir touché par ça, et c'est également ça aussi qui combat, je dirais, le communautarisme, qui a un bon côté, évidemment, c'est aussi important de croiser des gens qui vous ressemblent, mais quand il devient nocif, à savoir chacun dans son coin, c'est évidemment quelque chose de terrible, et ça, on l'évitera parce que les gens qui ne sont pas confrontés à ça sont tout aussi fâchés que ceux qui le vivent également, et ça c'est essentiel à mettre en avant.
Oui, totalement, ouais. Non mais c'est pour ça, c'est mon film là, c'est un appel à la cohésion et au fait de ne pas mettre la tête dans le sable, parce qu'on pourra parler le même langage à partir du moment où on acceptera la réalité de Exactement. L'autre, parce que moi j'ai été confrontée à ça, au fait de voilà, tout va bien quand tout va bien, mais quand tout à coup je parle des choses plus profondes qui sont liées à ma couleur de peau, tout à coup arrête de faire ta victime, oh, ça va attirer l'attention, alors là non, je me dis non, donc ça veut dire qu'il y a un problème de déni complet. Tout ça.
On le trouve où Ne me juge pas, ce court-métrage, pour le voir justement, ce film-là.
Alors, j'ai créé une page sur Facebook, la page du film, et je crois que je l'ai remis en lien privé parce que je l'ai envoyé à un festival.
D'accord.
Et c'est un film qui est autoproduit. Bon, il a beaucoup de maladresses, mais bon, on a fait le film. Hein. C'est pour ça que là, j'aimerais bien être produite pour les prochains, parce que de porter un tel projet. Seul, c'est compliqué, quoi.
On a beaucoup de choses également à te poser, mais on va essayer de la résumer pour cette question d'ouverture. Si tu es déjà passé sur des tournages de téléfilms, de longs métrages, des rôles également très présents. Alors, je peux mettre également ici en fond sonore la bande-annonce d'Un mauvais garçon, qui est un téléfilm qui est passé notamment sur France Télé. On reste dans le domaine de l'engagement, puisque ici c'est l'histoire d'un homme qui est confronté à son passé, un enseignant qui est confronté à un passé où il a été en prison et qu'on lui renvoie directement. Bon, on va pas déflorer l'intrigue, mais on s'aperçoit également que tu...
Une seconde chance, entre guillemets.
Oui, exactement. Et on s'est aperçu dans ta filmographie que tu avais beaucoup de rôles dans l'univers du polar, et on se demandait justement, comme on en parlait également dans la première partie, est-ce qu'on choisit des rôles par goût personnel parfois et que ça donne une orientation à une filmographie? Est-ce qu'il y a vraiment un goût là-dedans pour cet univers-là pour toi?
Le polar, moi j'ai toujours rêvé de jouer une héroïne, parce que je suis l'héroïne de ma vie, je vais le dire, ça peut paraître prétentieux, mais je m'en fiche.
Non, on l'est tous, hein. On l'est tous. Moi je suis le super-héros de ma vie, mais bon après, voilà.
on est les héros de notre vie, et c'est comme ça qu'il faut le voir en fait, faut pas être derrière au fond du train, non, faut être à la tête, faut le conduire le train. Et trop souvent les gens ont peur d'entreprendre des choses alors que c'est la clé même d'avoir le courage d'embrasser son destin et de faire ce qui nous fait vibrer vraiment. Et donc oui, le polar, là je joue le rôle d'une fliquette, parce que j'ai été crédible aux yeux des direcasts pour jouer ça, et parce que j'ai une autorité aussi naturelle qui m'a permis de jouer ce genre de rôle. Mais je peux en jouer plein d'autres, et moi je sais que je suis aussi très attirée par les films musicaux, tu vois, genre The Greatest Showman, j'adorerais jouer ça au féminin. Par exemple, tu vois.
Oui, un film fabuleux, ça, The Greatest Showman. Alors, bon, moi, c'est avec l'accent berrichon, mais on voit qu'en France, on a plus de mal avec ce registre-là depuis Jacques Demy, finalement.
Oui, et je trouve ça dommage, parce que pour moi, c'est transcendant, ça fait vibrer l'âme, il y a de la musique, puis c'est des films photographiques. Moi, j'aime bien les histoires avec beaucoup de poésie, que ce soit dans l'image, par le soin de la composition qu'on a pu mettre dedans, la musique choisie, la performance. Mmh. Moi, j'aime bien quand les choses sont faites à fond, et c'est pour ça que j'aime aussi ce métier. Voilà. Mais le polar, oui, il y a quelque chose de l'ordre, on est dans l'action, on y va, ouais. L'énergie, on y va, on n'a pas peur.
C'est vrai qu'il y a différents registres, parce que comme tu le dis, il y a un polar où on s'engage à fond, qui irait plutôt vers l'action, mais je dirais, il y a aussi le polar à la Melville des vieux films, où on voit par exemple Alain Delon dans Le Samouraï, qui est en sous-jeu complet. Alors pour nos auditeurs, le sous-jeu, c'est quand l'acteur essaye d'en faire le moins possible, et ça demande aussi énormément de concentration, paradoxalement, puisqu'on peut parler de Ryan Gosling, par exemple, qui est devenu un spécialiste international de l'underplay, et pour les comédiens, ça peut être également un vrai défi également de le tenir, d'être en sous-jeu relativement prononcé. Donc il y a également cette école-là dans le polar.
Oui, moi j'adore aussi tout ce qui est micro-expression. Mm-hmm. C'est énorme parce que ça en dit long et oui, le langage corporel, comme on sait, hein, c'est 80% du jeu. Enfin, attendez, je ne vais pas dire des faux chiffres, mais c'est énormément de pourcentage du langage humain. C'est comme ça, c'est par celui-ci qu'on communique. Et c'est vrai que quand on est filmé en gros plan et qu'on doit, on doit exprimer quelque chose, les micro-expressions, c'est dingue, mais ça demande d'être vraiment connecté à la situation et d'avoir vraiment un point de vue sur la situation au moment où on joue la scène. C'est que si on trouve quelqu'un d'absolument absurde on va pas faire les gros yeux en mode oh, qu'est-ce qu'il est con. Non, on va faire un truc en mode on va avoir un petit geste d'impatience, on va regarder un peu sur le côté ou machin, oui. Mais parce qu'on va moins le penser. Et on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce boulet? Faut vraiment avoir un dialogue intérieur, un monologue interne. Et ça, c'est une des techniques de jeu de l'acteur. C'est le monologue interne. C'est hyper important de savoir qui est son personnage et puis surtout de connaître bien son texte. Oui. Parce que quand on connaît bien son texte, on peut le jouer beaucoup plus librement. Et ça permet de vraiment, par exemple, moi, Prisca, quel est mon point de vue sur cette situation-là? C'est-à-dire que quand je suis dans une scène où il y a le sujet m'engage personnellement, moi, en tant qu'actrice, quand je vais jouer le truc, je vais ramener de moi dedans, dans la performance, de ce que je pense vraiment, mais à travers le jeu et les circonstances données. Et c'est ça qui fait que les micro-expressions, elles viennent naturellement parce qu'on pense vraiment quelque chose de la situation.
Tout à fait. Et c'est en tout cas passionnant. C'était un entretien vraiment qui nous a apporté un très très bon moment. On a découvert comment vit une comédienne, ce qui lui passe par la tête, ce qu'elle porte et ce qu'elle apporte comme culture, et également tes projets qui nous intéressent grandement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les prochains projets? Quels vœux on peut faire pour la suite, qu'on continue à suivre tes projets?
Eh ben, qu'ils aboutissent.
Oui, c'est un super vœu. Non, mais évidemment, mais je veux dire, les prochains projets, ça va être des longs métrages, des courts métrages, diffuser tes films également.
Oui, j'ai un documentaire, donc voilà, ce documentaire Liberté, Égalité, Fraternité, Cœur et Généralité, j'aimerais bien qu'il sorte et qu'il ait l'impact que je souhaite, parce que pour moi c'est un film vraiment important et qui pourra aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qui pourra être vraiment, qui pourra, sur plein de niveaux en fait, ça pourra être bon pour les gens, pour la planète, pour tout, pour les prises de conscience, pour moi, donc c'est vraiment un sujet, et puis même pour moi personnellement. C'est le genre de film que je voudrais offrir à mes enfants, enfin quand j'en aurai, si j'en ai. Et puis, surtout, pouvoir, jouer dans les rôles que j'aimerais jouer dans les films, qu'ils soient engagés ou pas, mais en tout cas avec des vraies histoires à défendre, des vrais rôles, parce que j'ai envie de défendre des vrais personnages, tel un avocat qui défend son client. J'ai besoin de défendre des vrais beaux rôles. Après, il faut pas dire que les rôles sont pas. Il y a des rôles moins beaux que d'autres, mais j'ai vraiment envie de ça.
D'accord.
Un cinéma à l'image telle que je m'en fais l'idée, avec de la vraie performance et pas du low cost.
Tout à fait. Le message est passé. Nous, on sera très contents de suivre ces aventures-là et de les relayer dans l'émission avec un très très grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela avec nous pendant ces numéros. On a vraiment passé un très très bon moment et ça va sans dire, parce que c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, un immense merci de nous avoir accordé ce temps-là aujourd'hui.
Merci à toi. Je suis ravie d'avoir eu l'occasion de pouvoir parler de tout ça. C'était nécessaire et c'est cool.
Merci beaucoup Thomas pour les questions également, pour m'avoir appuyé dans l'interrogatoire, j'allais dire.
L'interrogatoire, ouais.
C'est parce que j'avais la scène d'interrogatoire de Prisca qu'on a passé au tout début, pardon. Ce questionnement et ces questions à Prisca, évidemment.
C'est un très grand plaisir.
Alors pour nos auditeurs, Prisca Perast, on partagera évidemment tes projets et puis les morceaux qu'on a cités pendant l'émission sur notre page Facebook Graffiti Cinéma. Vous nous retrouvez également sur Ranchor toutes les semaines en podcast. Encore un immense merci Prisca et puis tous nos voeux pour la suite, évidemment. On sera toujours là pour suivre.
Merci à vous.
Un grand merci, à bientôt. Au revoir.
À bientôt, ciao, ciao.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?
Allez, à mardi prochain, Graffiti Cinéma, on continue de parler de cinéma toutes les semaines, partout où la joie se partage et partout où elle voudra bien de nous. Salut, à bientôt.